pour commencer ce journal, eh bien, on revient sur ce rapport présenté samedi à la COP25. Les océans perdent de leur oxygène.
On parle beaucoup du plastique, de l'acidification des eaux, de la pêche intensive, mais on parle peu de la désoxygénation des océans. Cette étude, qui porte sur ce problème moins visible, est à l'initiative de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Pendant 3 ans, 67 scientifiques de 17 pays ont réuni des décennies de mesures du monde entier. On constate que depuis 1960, le taux d'oxygène dans les océans a diminué d'environ 2%. 77 milliards de tonnes d'oxygène ont disparu. Et à ce rythme, si rien ne change, les océans risquent de perdre jusqu'à 4% de leur concentration en oxygène d'ici 2100. Alors pour les écosystèmes marins, c'est une menace grave. Eux aussi, ils dépendent de la teneur en oxygène de leur environnement. Véronique Garçon est directrice de recherche CNRS au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale. Elle est l'une des autrices de cette étude.
Deux choses. Il y a le réchauffement climatique qui fait qu'en fait, quand l'océan se réchauffe, il retient moins d'oxygène, alors que la faune qui vit dans les eaux plus chaudes a un besoin d'oxygène plus important. Alors ça, c'est le réchauffement climatique et ça, c'est dû aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour les zones côtières, il est clair que tout ce qui est fertilisation excessive des sols, qui sont générés par des pratiques agricoles qui utilisent beaucoup d'engrais sur les bassins versants, des fleuves, tout ça, ça débouche sur les estuaires et le littoral. Dans certaines régions du globe, ça s'accompagne de rejets d'eau usée qui ne sont pas traités. Donc ça, c'est vraiment la source des zones anoxiques en zone côtière. Mais ces zones côtières ont aussi du réchauffement climatique. Donc en fait, eux, ils ont la double peine, je dirais. Quand on a des rejets de nutriments qui vont dans les eaux côtières, on a une prolifération des algues qui se décomposent. Cette décomposition consomme de l'oxygène et donc du coup, on arrive à des zones qui sont proches de l'anoxie. D'ailleurs, on est au picot, au nanomolaire d'oxygène dans l'eau. Donc tout ça, en fait, c'est complètement lié. Hein.
Comment on peut faire justement pour limiter la désoxygénation des océans ?
Alors, il y a deux choses, clairement, c'est réduire de façon drastique les charges en nutriments qui arrivent aux océans, de par les pratiques agricoles, et puis réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut respecter l'accord de Paris, il faut suivre le scénario dans notre jargon qu'on appelle RCP 2.6, des températures à moins de 1,5 de degrés pour l'an 2100. Et là, la France a encore beaucoup à faire, puisque les 25 dernières années, elle n'a pas vraiment suivi les engagements. Donc voilà. Et les deux seules solutions.
Voilà, vous pouvez retrouver évidemment le lien vers l'étude qui a été évoquée, ainsi que toutes les études qui vont être évoquées dans le Journal des Sciences et dans le reste de l'émission, soit sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc, soit évidemment sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une prépublication sur BioArchive, les plantes pourraient émettre des ultrasons.
Oui, et lorsqu'elles sont dans des états de stress, lorsqu'elles sont coupées ou lorsqu'elles manquent d'eau. Les chercheurs de l'université de Tel Aviv, en Israël, ont placé des micros à 10 cm de plants de tabac et de plants de tomates. Ils ont enregistré des ultrasons de 20 à 100 kHz. Alors, ces fréquences ne sont pas audibles pour les humains, mais elles le sont pour les insectes et pour certains mammifères. Selon ce papier, les plantes pourraient créer ces ultrasons par un processus de cavitation. Ce sont des bulles d'air qui provoqueraient des vibrations dans les tiges des plantes.
Aux États-Unis, une pilule contraceptive mensuelle est en phase de test.
Et cette pilule, en une seule prise par mois, vient de passer des tests positifs chez les cochons. Elle serait efficace à 99%, comme pour une pilule traditionnelle. Les chercheurs du MIT viennent de publier leurs résultats dans Science Translational Medicine. Il s'agit d'une capsule de gélatine qui reste dans l'estomac pendant 3 semaines et qui se dissout pour libérer lentement les hormones. À 21 jours, les femelles qui avaient absorbé la pilule mensuelle avaient des niveaux d'hormones comparables à celles qui recevait une dose quotidienne. Des essais cliniques sont à venir.
Et les premières observations de la sonde Parker Solar Probe viennent d'être publiées dans 5 études dans la revue Nature.
Et la sonde de la NASA, lancée l'année dernière, a pour mission de mieux comprendre les champs magnétiques du Soleil et le fonctionnement de ces vents solaires, ces projections de particules ionisantes. Et déjà des surprises. Contrairement à ce que pensaient les astrophysiciens, la couronne solaire, c'est-à-dire la couche externe, est plus chaude que les autres couches. Et d'autre part, ces vents solaires se formeraient dans cette zone extérieure. La sonde sera au plus proche de l'astre en 2024.
Voilà, on reviendra évidemment plus longtemps sur Parker Solar Probe et sur les résultats publiés d'ici 10 jours d'ailleurs dans la méthode scientifique, dans une émission qui sera consacrée entièrement à notre Soleil.